suspendu. Rien ne semble devoir arriver. Aucun signe, aucun indice ne laisse présager ce qui va se passer. Assis à l'une des tables à l'extérieur, devant le Red Lion, un homme seul boit tranquillement une bière. C'est un jeune homme brun, d'environ 25 ans, qui porte un jean bleu et une chemise blanche dont il a retroussé les manches jusqu'au coude. À côté de lui, sur la table, sont posés un carnet à spirale et un stylo à billes. Il regarde d'un air absent devant lui, de l'autre côté de la route, en direction des pierres au sud du village. Mais son attention n'est pas focalisée sur elle, comme le révèle le coup d'œil qu'il jette à sa montre. Il attend quelque chose ou quelqu'un. Il boit une gorgée, repose son verre sur la table. Il est presque vide. Le soleil fait scintiller le reste de liquide effervescent. Il entend une voix d'enfant venue de derrière The Cove. À cet instant, aucun moteur ne l'en empêche. L'homme tourne la tête. Il voit une femme et trois enfants approcher des pierres depuis le périmètre extérieur du talus. Deux des enfants courent, une fille et un garçon. Peut-être joue-t-il au premier qui arrivera au mégalithe. Le garçon a 9 ou 10 ans. Il porte des tennis en toile, un jean et un t-shirt rouge. La fille doit avoir 2 ans de moins. Elle porte des sandales, des chaussettes blanches et une robe bleue à pois blancs. Tous les deux ont des cheveux clairs, presque blonds dans le soleil, coupés courts pour le garçon et longs, tirés en queue de cheval pour la fille. La femme est à la traîne parce qu'elle règle son allure sur le plus jeune, un poupon qui marche d'un pas mal assuré à côté d'elle. C'est une fillette vêtue d'une salopette et d'un t-shirt à rayures. Il fait peu de doute, étant donné la couleur de ses cheveux, noués en couette avec des rubans, qu'elle est la sœur des deux autres enfants. Il est beaucoup moins probable que la femme qui les accompagne soit leur mère. Mince, les cheveux bruns, elle paraît trop jeune pour le rôle, n'ayant guère plus de 20 ans. Elle porte un pantalon de lin crème, une blouse rose et un chapeau de paille. Son attention est presque entièrement accaparée par la petite fille à côté d'elle. Les deux autres filent devant. Alors qu'ils approchent des pierres, un individu jusqu'alors caché de tous sort de l'espace entre Adam et Ève. C'est un homme petit, avec du ventre, qui porte des chaussures de randonnée, un short marron, une chemise à carreaux et une sorte de veste de pêcheur à poches multiples. Il a des joues rondes, le crâne chauve, des lunettes sur le nez. Il doit avoir entre 35 et 50 ans. Les deux enfants s'arrêtent et le dévisagent. Il dit quelque chose. Le garçon répond, fait un pas en avant. Le client du Red Lion regarde parce qu'il n'y a rien de plus intéressant à regarder. Il ne voit là rien de sinistre ou de menaçant. Ce qu'il voit, c'est un reflet sur un bout de verre au moment où l'homme près des pierres sort quelque chose d'une de ses innombrables poches. Le garçon se rapproche. La femme se dépêche de les rejoindre maintenant, sans courir, pas vraiment par angoisse, mais plutôt par prudence, son attention détournée de la petite qui la suit à son rythme, très lent, et s'assied brusquement dans l'herbe pour admirer des boutons d'or. Le client du Red Lion voit tout cela, et il n'en pense rien. Même quand une autre silhouette entre dans son champ de vision derrière Silbury House, il ne réagit pas. C'est un homme trapu, aux cheveux courts, habillé en treillis. Il court à toute vitesse dans le pré de l'autre côté des pierres. La femme ne peut pas le voir, il est derrière elle, et elle s'adresse en souriant à l'homme à la veste de pêcheur. Et c'est là que tout bascule. Le coureur s'arrête, se penche, attrape sous les bras l'enfant assise, la soulève comme si elle ne pesait pas plus que les boutons d'or qu'elle serre dans son poing et repart en courant par où il est arrivé. L'homme à la veste de pêcheur est le premier à réagir. Il dit quelque chose à la femme en levant la voix et en pointant l'index. Elle se tourne, regarde, porte la main à sa bouche. Elle jette son chapeau et se lance à la poursuite de l'homme qui a pris l'enfant. Caché par Silbury House, celui-ci n'est plus visible par le client du Red Lion. Le brouhaha d'un camion qui roule vers le sud augmente la confusion. Tout se passe à la fois très vite et très lentement. Le buveur de bière se contente de se lever de sa chaise, bouche bée, tandis que les événements de la dernière minute diffusent leur poison à tous ceux qui en ont été témoins. Au coin de Green Street, apparaît soudain un fourgon transit blanc dont les portes à l'arrière se referment bruyamment. La fillette et son ravisseur sont à l'intérieur. Cela, tout le monde le comprend ou le sait intuitivement, car seule la femme les a vus monter à bord. Un deuxième homme conduit le fourgon. Cela aussi, tout le monde le devine, même si personne ne fait mieux que l'apercevoir dans les secondes qui suivent. L'homme à la veste de pêcheur a fait quelques foulées impuissantes derrière la femme, mais il est revenu en arrière. Le garçon reste pétrifié entre Adam et Ève, incapable de décider quoi faire ou qui suivre. Sa sœur, elle, ne partage pas son indécision. Elle court vers le portail de la route principale, sa queue de cheval vole au vent. Ce qu'elle a en tête n'est pas clair. D'où elle était, elle a forcément vu le fourgon démarrer. Elle sait qu'on lui vole sa sœur. Elle n'a pas les armes pour empêcher ce qui est en train d'arriver. Pourtant, elle semble déterminée à essayer. Elle lève le loquet du portail et poursuit sa course. Le fourgon tourne à droite sur la route principale. Une voiture qui roule vers le nord et qui a ralenti pour prendre le virage freine abruptement pour éviter la collision et klaxonne. Le chauffeur du fourgon n'y prête aucune attention. Il accélère, dérape et évite de justesse le mur d'enceinte du parking du pub. Arrivée au bord de la route, la fillette ne s'arrête pas. Elle continue sur sa lancée et vient se placer sur la trajectoire du fourgon. Elle court vers lui en levant les mains en l'air, comme pour lui ordonner de s'arrêter. Le chauffeur aurait sans doute le temps de réagir, mais il ne le fait pas. Il fonce droit devant lui. La petite ne bouge pas d'un pouce. En une fraction de seconde irrespirable, la distance entre eux s'abolit. Un bruit sourd se fait entendre quand l'avant du fourgon percute la chair tendre. Le corps fragile de la fillette s'envole, décrit une sorte de parabole. Il y a la masse blanche du fourgon qui accélère et la silhouette plus lente, vert foncé, de la voiture qui le suit. Aucun des deux véhicules ne s'arrête. Le conducteur de la voiture suit sa route comme s'il n'avait rien vu. Et peut-être n'a-t-il rien remarqué de ce qui vient de se dérouler. Il n'a pas besoin de faire une embardée pour éviter le corps recroquevillé sur le bas-côté. Il poursuit simplement son chemin. Le fourgon et la voiture disparaissent un peu plus loin dans un virage. Tout mouvement cesse, tout bruit disparaît. Cela ne dure qu'une seconde. Bientôt, tout le monde courra. Le garçon se mettra à pleurer. L'homme qui buvait devant le Red Lion sautera par-dessus le mur du parking, les yeux rivés sur le bas du talus de l'autre côté de la route, là où gît la fillette dont la robe bleue et blanche est tachée de rouge vif, tandis que le bitume entre eux se couvrira d'une mare de sang. Et elle semblera croiser son regard. Elle semblera le fixer de ses yeux vitreux. Mais ce n'est pas encore le moment, pas pendant cette seconde. C'est l'avenir, un avenir qui se forge dans l'immobilité et le silence de cet instant en suspens. Tout commence à Avebury, mais ce n'est pas là que l'histoire se termine. Chapitre 1. L'hiver n'avait pas été très rude à Prague. Néanmoins, le retour de la neige et de la glace avait mis un terme au redout. Quand il avait accepté de faire le guide pour Jolly Broly le vendredi suivant, David Humber ne s'attendait ni à une température glaciale en dessous de zéro, ni aux pavés glissants et aux congères pisseuses dans les caniveaux. Mais Jolly Broly n'avait pas annulé. Ce matin-là, il quitta donc avec réticence son immeuble sur Sokolovska. Grand, mélancolique, la quarantaine tassée, les cheveux bruns grisonnants, visiblement affligé par des pensées peu agréables, il releva le col de son manteau et se dirigea tête basse vers l'arrêt de tram en jetant un coup d'œil dans la rue pour voir s'il devait se presser. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de tram en vue, ce qui lui donnait l'occasion d'examiner le courrier qu'il avait trouvé dans sa boîte aux lettres en partant. Ayant déduit, grâce à la police de caractère qui apparaissait dans la fenêtre de l'enveloppe qu'elle venait de la banque, il la remit dans sa poche sans l'ouvrir et appuya sur le bouton d'arrêt du tram. Bon sang, quel froid! Comme souvent quand il faisait un temps pareil, il se demanda ce qu'il fabriquait ici. Mieux valait ne pas trop s'attarder sur la réponse, il le savait. S'il était resté après la fin de son contrat de professeur l'été dernier, c'était pour Milena. Mais elle l'avait quitté. Et le poste temporaire qu'il avait trouvé pour le premier semestre avait lui aussi pris fin. Il avait un petit cercle d'amis et de connaissances à Prague. Et parmi eux figurait heureusement Ivana, coordinatrice de Jolly Broly, et entrepreneuse manquée. Mais il avait aussi d'excellentes raisons de se sentir abandonné et inutile. Debout à l'arrêt de tramway, il passait d'un pied sur l'autre pour tenter de se réchauffer, ou du moins pour ne pas avoir plus froid. Les radiateurs de son appartement avaient cruellement besoin de réparation. Cela valait d'ailleurs pour tout l'immeuble.